Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse.
Le style Jackie Kennedy.
I do not think it altogether inappropriate to introduce myself to this audience. I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris, and I've enjoyed it.
Je suis le type qui accompagne Jackie, disait John en 1961 à son arrivée à Paris où sa femme avait depuis longtemps ses marques. Il lui arriva de surenchérir sur le même mode plaisant. J'ai coupé à temps les ailes d'une future grande journaliste qui serait devenue gênante pour le pouvoir politique. Ce mariage fut une association d'ambition assez solide pour tenir jusqu'au bout. L'assassinat de Dallas survenu, Jackie décida de finir l'histoire demeurée inachevée en mettant en scène le couple et la famille qu'ils avaient été. C'est ce que suggère bien le film de Pablo Larraine qui sort sur les écrans ce mercredi. John et elle avaient aimé la comédie musicale Camelot. Elle décrivit les 1000 jours de la présidence comme une sorte de récit du roi Arthur. Dans la grande opération patrimoniale de réaménagement de la Maison Blanche qu'elle avait brillamment pilotée, elle avait découvert des albums de photos consacrés à Lincoln. Elle organisa sur le modèle des funérailles de Lincoln, celle de John, ajoutant cette touche qui dit tout de son sens de la représentation, le salut militaire du petit John John devant le catafalque de son père. Une administration américaine, c'est aussi un style, on le voit bien aujourd'hui. L'écrivain Julien Gracq avait cette formule. Le public est avide de révélations plus qu'il ne cherche à approcher de la vérité. Jackie connaissait l'envers du décor Kennedy, elle savait que viendrait le temps de l'inspection acharnée des coulisses. Avant même que celle-ci ne commence, elle avait choisi de répondre en construisant une légende.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec André Caspi, bonjour.
Bonjour.
Merci, alors que maintenant vous êtes devenu, après avoir quitté l'université, surtout un élu municipal à Saint-Maur, de reprendre un petit peu de service comme américaniste. Vous avez formé tellement d'américanistes, André Caspi. Je dirais, juste pour signaler un livre qui n'est pas ancien, celui que vous avez consacré au président américain avec Hélène Harter, c'est aux excellentes éditions, Talendier. Juste un mot peut-être de la jeunesse et des origines de Jacqueline, qui avant de construire une légende a construit quand même sa propre personnalité, elle qui avait été privée, allez on va faire dans le style people, de l'attention de ses parents qui s'entre-déchiraient.
Oui, et puis d'un père qui n'avait pas la fibre paternelle de toute évidence, qui dépensait beaucoup d'argent, qui buvait, bref, elle sort d'une famille troublée, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela dit, elle a une sœur avec laquelle elle s'entend plutôt bien, qui a épousé un prince d'origine polonaise, hein, c'est Lee Radziwill. Ce qui fait que on peut dire de Jacqueline Kennedy qu'elle est bien élevée. Elle a fait une année d'études à Paris, comme chacun sait et qu'on ne manque jamais de rappeler. Elle était à la Sorbonne. Et puis j'ajouterais qu'elle a une qualité qui plaît beaucoup à la famille Kennedy, c'est qu'elle est catholique. Et il faut marier ce jeune politicien qu'est John Kennedy, puisque le mariage a lieu en 1953. John Kennedy a été élu à la Chambre des représentants en 1946. En 1952, après plusieurs mandats à la Chambre, il vient d'être élu sénateur, ce qui veut dire que sa carrière prend de l'ampleur. C'est un garçon qui est recherché par beaucoup de femmes, et qui d'ailleurs ne se prive pas de répondre à leur appel. Et du coup, il est nécessaire de le marier. Donc, le marier avec cette jeune personne catholique, bien élevée, qui n'est pas très riche, hein, au contraire, mais qui va donner, du lustre à ce couple et qui permettra en somme à John Kennedy de poursuivre sa carrière politique.
Elle ne participe pas de très près à la campagne électorale qui va permettre l'élection à la présidence de Kennedy parce qu'elle est enceinte, c'est une des raisons qu'on peut mettre en avant. Et quand le couple arrive à la Maison Blanche, c'est quand même un coup de jeunesse. Parce qu'avant, si on parle simplement des premières dames, la première dame avait le tort de se prénommer Mamie. Mamie Eisenhower.
Oui, alors Mamie Eisenhower était en effet une personne tout à fait honorable, mais d'une discrétion exemplaire. Au même titre d'ailleurs que Madame Truman, même si Madame Truman a joué un rôle auprès de son mari. Mais on ne peut pas dire que sur le plan national, elle ait exercé la moindre influence. Mais je dirais que il ne faut pas sous-estimer le fait que Jackie Kennedy était enceinte au moment de la campagne électorale. Parce que ça, c'est très bon pour l'image du candidat. Cela montre que c'est un jeune ménage. Et que ce jeune ménage succède à un personnage extrêmement illustre qui est Eisenhower. Eisenhower a été élu en 1952 pour la première fois à la présidence. Mais il faut rappeler quand même que c'est l'ancien commandant en chef des forces alliées sur le théâtre occidental. C'est-à-dire, c'est lui qui était responsable du débarquement en Normandie. Donc c'est un personnage illustre. Et en plus, John Kennedy a cette caractéristique, c'est que il est le premier président des États-Unis qui soit né au XXe siècle. Et il ne manque jamais, notamment dans son discours d'investiture, il ne manque jamais de rappeler qu'il est le symbole même du passage du flambeau. C'est-à-dire que c'est une nouvelle génération qui arrive au pouvoir, qui succède à la vieille génération, et ce sont les États-Unis, en somme, qui se rajeunissent complètement par son intermédiaire. Et dans ce cadre-là, Jackie Kennedy tient une place importante, c'est-à-dire que elle a déjà une petite fille, elle a eu entre temps, par cela, une fausse couche, mais passons là-dessus, et puis elle est enceinte, et John Kennedy ne manque jamais de souligner que sa femme est enceinte, c'est-à-dire qu'il en est fier, et je le répète, il en tire profit.
C'est photogénique, c'est télégénique, c'est l'heure où se développe jusqu'à pénétrer dans tous les foyers, parfois à plusieurs exemplaires, la télévision. C'est une femme qui a été photographiée, filmée des centaines de milliers de fois, d'où l'importance qu'elle va donner au décor qui doit entourer le couple présidentiel. Elle constitue un comité patrimonial à la Maison Blanche. Vous avez oublié de dire qu'à Paris, elle a fait des études d'histoire de l'art aussi.
Oui, bien sûr. Mais elle constitue ce comité parce que elle veut transformer la Maison Blanche. D'abord, elle veut la rajeunir. C'est toujours dans cette idée que c'est la jeunesse qui est au pouvoir. Je rappelle au passage que John Kennedy, lorsqu'il devient président des États-Unis, a 43 ans. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, c'est vraiment la jeune génération. Et puis, ce qu'elle veut, c'est offrir au peuple américain une maison commune et une maison qui soit renouvelée, qui soit différente de la maison dans laquelle ont habité Eisenhower, Truman, Roosevelt.
Oui, parce qu'au temps de Mamie, c'était des meubles trouvés dans des magasins de rabais, a-t-elle dit. Tandis que quand elle ouvre les portes de la Maison Blanche, elle va le faire à la télévision américaine, mais aussi à la radio française. Pierre Crenès, en 61.
Oui, Pierre Crenès était un grand correspondant de la radio française aux États-Unis. Il avait d'ailleurs joué un rôle auparavant, en 1944, puisqu'il faisait partie de ces journalistes de la France libre. C'est lui qui a annoncé sur les ondes de Radio Paris la libération en août 1944. Donc Pierre Crenès, c'est en somme celui qui sert d'intermédiaire entre l'Amérique et la France.
Et devant Pierre Crenès, elle insiste sur l'authenticité, l'ancienneté de tout ce qu'elle a rassemblé.
La Maison Blanche fut le premier édifice public construit à Washington par James Hoban, architecte irlandais, en 1792.
Une fois que nous sommes dans le hall d'entrée, à gauche, je crois, se trouve le grand salon de réception.
Oui, ça s'appelle le salon de l'Est. C'est là où il y a quatre bustes en biscuit de Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson et Abraham Lincoln, qui étaient offerts par l'ambassadeur de France pendant le gouvernement de Theodore Roosevelt. C'est le salon doré où on donne les bals et toutes nos jolies réceptions. Vous savez, il y a tellement de jolies choses dans la Maison Blanche qui ont ou acheté en France ou donné par la France. Nous en sommes très fiers.
Et si je crois la rumeur publique, vous avez participé beaucoup à la nouvelle décoration de la Maison Blanche. Car dans ce salon où nous sommes maintenant, dans cette salle verte, deux tableaux n'y étaient pas il y a quelque temps.
Non, nous avons deux beaux Cézannes. maison sur le Marne et le forêt qui vraiment sont incroyables dans cette pièce.
Tableau français, vase français, il est ravi, Crédès. Pendule française, le bureau ovale confie un designer, je ne sais pas s'il faut dire le mot, il faudrait trouver un mot français, de la maison Janssen de Paris. Et puis, les couturiers qui l'habillent, Chanel est encore vivante à cette époque, sont très souvent français. Très important, donc, le style comme ça qui est donné à l'administration.
C'est-à-dire que le style français, ça veut dire le style de l'élégance. On n'est plus dans... le bon marché, on est au contraire dans ce qui correspond au summum de l'art, que ce soit la peinture, le mobilier, le décor, tout cela en somme est français, de même que le chef cuisinier est français, de même que celui qui dessine les modèles des vêtements de Jackie Kennedy est français, c'est-à-dire qu'au fond, il y a une volonté de montrer que la présidence des États-Unis n'est plus entre les mains de ce que nous pourrions appeler, nous, Français, les beaufs, encore que traiter Eisenhower de beauf, c'est quand même un peu fort, mais cela veut dire que désormais, on est dans un domaine tout à fait différent, on a grimpé de plusieurs étages. Et par conséquent, tout cela, c'est pour la gloire des Kennedy, d'accord, mais c'est surtout pour la gloire du peuple américain.
Dont la mission est universelle.
Et le fait même que Jackie Kennedy s'exprime dans un français très correct, avec ce léger accent qui la caractérise, montre précisément quelle est la représentante de ce nouveau symbole.
Continuons à explorer ce qu'elle disait pendant la période de la présidence ou aussitôt après la fin de la présidence, par exemple sur son rôle en politique. Elle aurait peut-être voulu, dit-elle, avoir un peu plus d'influence, mais le partage était clair pour John. L'homme, pour John, c'est le leader. Les femmes doivent tourner leur regard vers lui. Ici, une interview avec Arthur Schlesinger de 1964 où est évoqué un soir où la guerre du Vietnam, dont Kennedy doit quand même endosser la responsabilité, où la guerre du Vietnam avait connu de nouveaux développements.
It was at the end of the day, and he said, "Oh my God, kid," which was. It sounds funny, but I got used to it. It was a sort of a term of endearment that I suppose his family used.
C'était à la fin de la journée, et il a dit, "Oh mon Dieu, fillette." Ça a l'air drôle, mais je m'y suis habituée. C'était une sorte de surnom gentil qu'on employait dans sa famille, je pense.
He said, "I've had that, you know, on me all day, and I just see he'd just been swimming at the pool and sort of changed into his happy evening mood." Mm-hmm. And he said, "Don't remind me of that all over again," and I just felt so criminal.
Il a dit, "Tu sais, j'ai eu droit à ça toute la journée, et je voudrais juste, tu vois, nager dans la piscine, être de bonne humeur pour la soirée." Il a dit, ne me rappelle pas ça encore. Et je me suis sentie si criminelle.
And I decided everyone should be trying to help Jack in whatever way they could. And that was the way I could do it the best. By making it always a climate of affection and comfort and détente when he came home. The children in good mood.
Moi, c'était ma manière. Toujours créer un climat d'affection et de confort et de détente quand il rentrait à la maison. Les enfants et la bonne humeur.
André Caspi.
Je crois simplement que Jackie Kennedy n'était pas très attiré par la politique. Et les réunions politiques l'ennuyaient ou l'épouvantaient suivant les cas. Son mari d'ailleurs n'utilisait pas les attraits de Jackie Kennedy pour renforcer son poids politique. Il se servait simplement de Jackie Kennedy comme une sorte de faire-valoir, c'est-à-dire pour montrer qu'il avait à ses côtés une très jolie femme qui s'intéressait aux choses de l'art, alors que lui n'en avait pas beaucoup le temps. Ce qui fait que je crois que dans cette interview, elle en rajoute un peu. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde ce qu'a été la campagne présidentielle en 1960 ou la présidence de John Kennedy pendant 1000 jours, on voit mal à quel moment l'influence de Jackie s'est manifestée, sauf peut-être, je le répète, dans cette visite télévisée, commentée, radiodiffusée de la Maison Blanche. Mais pour le reste, Jackie Kennedy ne joue aucun rôle. Et c'est tout à fait exceptionnel Qu'elle soit aux côtés de son mari à Dallas, en novembre 1963, au moment de l'assassinat, c'est-à-dire qu'il l'a fait venir précisément parce qu'il sait que être à côté de son épouse renforce encore son image auprès du public.
Dans le portrait qu'elle fait des 1000 jours de la présidence, les 1000 jours, c'est le titre d'un livre que vous aviez publié chez Armand Collin il y a quelques années, elle semble indiquer qu'il y a quelque chose de la cour du roi Arthur dans l'administration Kennedy. Elle aurait pu être, au fond, la reine Guenièvre. Il paraît que le couple regardait de temps en temps la comédie musicale illustrée par Richard Burton et ici Julie Andrews.
Where are the simple joys of maidenhood? Where are all those adoring, daring boys? Where's the knight pining so for me? He leaps to death in woe for me. Oh, where are a maiden's simple joys? Shan't I have the normal life a maiden should? Shall I never be rescued in the wood? Shall two knights never tilt for me and let their blood be spilt for me? Oh, where are the simple joys of maidenhood? Shall I not be on a pedestal, worshipped and competed for? Not be carried off, or better still, cause a where are the simple joys of maidenhood? Are these sweet, gentle pleasures gone for good? Shall a feud not begin for me? Shall kith not kill their kin for me? Oh, where are the trivial joys, harmless, convivial joys?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Jackie Kennedy, aujourd'hui, avec André Caspi, au moment où sort sur les écrans français le film Jackie de Pablo Larraín, qui insiste beaucoup sur cette référence à la cour arthurienne, mais où vous avez noté aussi d'autres accents qui vous ont intéressé, peu ou prou.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, là où le film a tout à fait raison, c'est de montrer que Jackie Kennedy a renforcé le mythe Kennedy, c'est-à-dire qu'elle a bien, elle a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait que l'enterrement de John ressemble à celui de Lincoln, c'est-à-dire Lincoln, c'est le martyr de la République, c'est le premier président des États-Unis qui ait été assassiné. Il y en a eu deux autres après lui, avant Kennedy. Mais ça veut dire que, au fond, c'est le grand héros de l'histoire américaine. Et c'est en cela qu'elle a joué un rôle important. Mais j'ajouterais quand même, cependant, que avant qu'il ne soit assassiné, Kennedy avait lui-même inventé son propre mythe. Parce que c'était cela qui lui permettait d'être élu sénateur deux fois et d'être élu président des États-Unis. Et ce propre mythe comportait des références à sa famille, comportait des références à son activité pendant la Seconde Guerre mondiale, comportait des références également à ses activités politiques. C'est-à-dire qu'au fond, le mythe Kennedy a précédé l'assassinat, mais il est évident que Jackie a contribué à lui donner toute cette importance avec la référence à cette comédie musicale qui est Camelot. C'est-à-dire que, au fond, de ce point de vue-là, je crois que elle a été un élément décisif dans l'histoire de la présidence.
Dans le film, on va en entendre un extrait, un entretien peu de temps après les funérailles entre un journaliste qui doit faire un papier dans Life, son premier papier dans Feu, la grande revue Life, et l'ex-première dame. Alors, une demande pressante du journaliste.
Il faudra dire quelque chose de personnel, les gens vont peut-être arrêter de demander quand vous l'aurez fait.
Autrement, ils risquent d'interpréter mon silence comme ils voudront, c'est ça? Elle vient de froncer les sourcils, ses lèvres sont serrées. Elle évite de pleurer, mais tout en elle trahit sa colère.
La plupart des écrivains rêvent de devenir célèbres.
Vous voulez devenir célèbre ?
Non, je suis très bien tel que je suis, merci.
Vous devriez vous préparer. Avec cet article, tous les projecteurs risquent d'être rivés sur vous.
Ah, et vous avez un conseil à me donner?
Oui. Évitez d'épouser le président. Avez-vous peur que j'éclate encore en sanglots?
Non, vous seriez plutôt du genre à hurler.
À hurler quoi?
Je vous dis que mon mari était un grand homme.
Elle va dire ça, mon mari est un grand homme, au moins pendant la période de la construction de la bibliothèque dédiée au président disparu, pendant la période de l'association très étroite avec Robert Kennedy, 64-68.
Oui, il y a eu en effet une association très étroite avec Robert Kennedy qui a servi en somme de support moral. Et je crois que 1968 a été pour Jackie une année traumatisante. Alors, traumatisante oui et non, parce que c'est l'année pendant laquelle elle a épousé Aristote Onassis. Et du fait qu'elle a épousé Aristote Onassis, le mythe Jackie a perdu beaucoup de son importance.
Et 68 traumatisant parce qu'il y a l'assassinat de Bob.
Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que après cela, il y a l'assassinat de Robert Kennedy. C'est-à-dire que Robert Kennedy, c'est le deuxième des fils Kennedy qui tombe sous les balles d'un assassin. Et donc, Jackie Kennedy ne veut plus être en contact avec les milieux politiques. Elle déteste cela. Elle considère que tous ces milieux politiques sont corrompus, dangereux, violents. Elle veut s'en écarter. Et c'est peut-être cela qui explique qu'elle épouse Aristote Onassis, mis à part le fait, bien sûr, qu'Aristote Onassis est aussi très riche, qu'Aristote Onassis lui fait la cour depuis longtemps,
qu'elle est très dépendante du clan Kennedy pour le paiement de ses factures.
Elle a besoin d'une sorte de protection, puisque Robert n'est plus là, il lui faut quelqu'un d'autre. Mais en épousant Onassis, elle perd de son prestige. On dit, mais alors, mais ce qu'elle veut, c'est l'argent. Au fond, est-ce qu'elle est fidèle au mythe Kennedy? Non, elle ne l'est plus, puisque elle est partie avec ce gros industriel, ce gros navigateur, armateur grec, qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Mais à vrai dire, Jackie imagine aussi qu'il faut protéger ses enfants. Et je crois que c'est là aussi une dimension importante. Elle est la mère de deux enfants. Elle est la mère de Caroline, elle est la mère de John. C'est-à-dire qu'elle a une mission à remplir qui est de les former, mais de les former en dehors du milieu politique pour qu'ils ne se retrouvent pas dans cette violence meurtrière dont elle-même, elle a subi les effets.
Mais la chute de son prestige va accélérer peut-être le temps des révélations qui, de toute façon, seraient venues. Le public préfère les révélations à l'approche de la vérité.
En effet, à partir de ces années-là, il y a toute une série d'ouvrages qui vont insister sur les caractéristiques de John Kennedy. D'abord, les caractéristiques physiques, parce que il n'était pas en si bonne santé que cela, loin de là. Sur sa politique vietnamienne, sur ses tendances à sauter sur n'importe quelle demoiselle ou dame qui se présentait à portée de lui. C'est-à-dire qu'au fond, le mythe Kennedy est démoli à cette époque-là. Et il est évident...
Vous datez le début de cette période de quand? C'est-à-dire, vous liez ça à quel livre?
On peut considérer cela que c'est parallèle à la protestation contre la guerre du Vietnam. C'est-à-dire qu'à partir du moment où beaucoup d'Américains protestent contre l'implication des États-Unis dans la guerre du Vietnam, ils se posent la question de savoir qui est responsable de cet engrenage. Alors, bien entendu, le principal responsable, c'est Lyndon Johnson, qui est président depuis 1963. Mais il n'empêche que, à l'origine, c'est quand même John Kennedy, et par conséquent, à partir de là, toutes les enquêtes, tous les ouvrages qui portent sur le président vont contribuer à diminuer sa valeur morale, à souligner en somme ses défauts, ses faiblesses, et par conséquent, à détruire le mythe Kennedy tel qu'il avait été construit et par Kennedy et par Jackie.
Juste une illustration, puisque vous évoquiez le thème de la santé souvent catastrophique de John Kennedy, un extrait de la série Les Cas, qui met en cause l'ensemble du clan, depuis le père Joseph jusqu'aux frères de John. Nous sommes en 1991 dans cette série, et il discute, le président, avec un confident.
Vous ne vous sentez pas mieux?
Non. On dirait que mon corps ne tient plus le coup. Je suis très vite épuisé.
Le phénobarbital, ça vous soulage?
Non.
Et les somnifères ne vous aident pas à dormir?
Non, j'ai installé mon lit ici car j'empêchais ma femme de dormir.
Malheureusement, la maladie d'Addison accentue les symptômes. Et vos douleurs au dos?
Elles sont toujours là. Je ne peux pas rester debout plus de 20 minutes. Et quand je suis assis, c'est encore pire. Si les Américains savaient dans quel état je me trouve, on me destituerait tout de suite.
Une telle dose de pétidine, ça devrait pourtant vous aider.
C'est pas le cas. C'est difficile de gouverner en restant allongé.
Je vais en parler au docteur Rona, mais il a déjà prescrit une très longue liste de médicaments. Méthadone, prednisone, hydrocortisone, gabapentine comme relaxant musculaire, métatestostérone, atropine...
Etc, etc. Il y avait le docteur qui va bien, je crois qu'il soignait les deux, le mari et la femme, avec des injections multiples. Moi, je retiendrai cette phrase. La série date de 91. Je ne suis pas sûr que Kennedy aurait parlé comme ça en 1962 ou 63. Si les Américains savaient cela, je serais destitué. C'est qu'entre-temps, il y a eu aussi l'affaire du Watergate.
Est-ce que les Américains l'auraient destitué parce qu'il était en mauvaise santé? Je crois que non, car il ne faut pas oublier que Franklin Roosevelt, qui a été président des États-Unis pendant 12 ans, était handicapé gravement, c'est-à-dire qu'il avait perdu l'usage de ses jambes. Franklin Roosevelt devait se déplacer avec une armature de fer autour de ses jambes, en s'appuyant sur un garde du corps ou sur son fils, suivant les cas. Et finalement, dans le dernier discours qu'il a prononcé devant le Congrès, c'était en mars 1945, quelques semaines avant sa mort, il était en chaise roulante. C'est-à-dire qu'au fond, les Américains ont eu l'expérience, sans le savoir, il est vrai, d'un président handicapé. Et je crois que cela est tout à fait méritoire de la part de la société américaine. Bien entendu, Roosevelt n'a jamais clamé qu'il était handicapé, mais beaucoup le savaient, mais on faisait semblant de ne pas le savoir. Alors, est-ce que Kennedy aurait été destitué parce qu'il était malade? Non. Destitué peut-être parce qu'il prenait des substances interdites, ça c'est autre chose. Menacé de destitution parce qu'il avait un comportement personnel qui n'était pas tout à fait conforme à la morale puritaine, peut-être aussi. Mais je crois que finalement, si Kennedy avait échappé à l'assassinat, il aurait sans aucun doute été réélu en 1964.
Juste un mot pour finir sur Jacqueline Bouvier, parce qu'elle est redevenue Jacqueline Bouvier. Le couple avec Onassis s'est déchiré un peu, a négocié beaucoup, et oui. Elle est devenue une femme libre.
Oui, c'est-à-dire qu'elle a cessé d'être Madame Onassis en 1974, ce qui veut dire qu'elle ne l'a été que pendant 6 ans. Et de 1974 jusqu'à sa mort, c'est-à-dire les 20 années qui ont suivi, elle a été une femme d'une très très grande discrétion. Elle a repris en partie son travail de journaliste et elle a continué à prendre soin avec beaucoup d'affection de ses enfants et de les former, en somme, eux aussi, à la discrétion, parce que Caroline Kennedy, aujourd'hui, est ambassadrice des États-Unis à Tokyo.
Elle vient de quitter son poste.
Mais, bien sûr, mais d'un autre côté, c'était tout à fait exceptionnel que Caroline Kennedy tienne une place politique.
Merci à vous, André Caspi. On n'a pas dit que c'était une bonne éditrice, paraît-il. Vous connaissez de bons éditeurs, alors je recommanderai Les Présidents Français avec Hélène Arter. C'est chez Talendier. L'émission était préparée par Claire Milon, Franck Olivar, Frédéric Marquin, Ilinka Negulesco, la réalisation Liscom, à la technique Raphaël Rousseau et au programme de Mathieu Vidard.
Oui Jean, dans la tête au carré, nous irons dans l'antichambre de l'amour pour parler des différents modèles du couple.
Oui, c'est en fait, ça consonne aussi avec ce qu'on a fait. Nous, c'est un vrai, oui. Vrai modèle de couple que nous vous avons présenté. Dans un instant, donc il est 14h, vous écoutez France Inter.